Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique « Le Verbe, un mot » qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de résilience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des gens qui ont connu des épreuves épouvantables ne sont pas devenus fous, mais au contraire sont devenus ministres ou avocats? Je prendrai pour exemple Madame Simone Veil. À 16 ans, elle est déportée à Auschwitz. Elle y verra mourir sa mère. Dans ses mémoires, elle décrira la vie au milieu de l'enfer. Écoutons-la au micro de France Inter.
L'envie de mourir et en même temps de se dire, sachant que c'était la fin de la guerre, c'est si bête de mourir maintenant. Il faut tenir quelques semaines, mais est-ce que ça vaut la peine? Parce que est-ce que même si on est libéré, on redeviendra un être normal? On sentait la fin de la guerre, mais une fin de la guerre qui a été épouvantable parce que là, les SS étaient complètement dépassés par la situation. Et les derniers mois de Belsen, je n'ai pas dormi pratiquement parce que je n'avais pas d'endroit pour dormir. J'avais l'impression d'être folle de ne pas dormir. Une espèce d'angoisse permanente, d'espèce de situation où je dormais debout, une sorte de somnambule, et puis d'humiliation atroce de la maladie. Ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de déchéance, et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est incommunicable. Presque tout le monde a le typhus. Une épouvantable épidémie de typhus, il n'y a plus rien à manger. Et les gens ont survécu comme ils ont pu pendant les 3 mois qui restaient. Moi, j'ai eu le typhus beaucoup moins fort que d'autres, et c'était aussi une maladie qui atteint les centres nerveux. Enfin, il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus rien. Une espèce de monde qui n'existe plus. C'était un spectacle de Bruegel. C'était ce qu'on a vu, d'image du Moyen-Âge, ou de les cadavres au bord de la route, des formes se traînant. Il y avait 4 mares dans le camp, enfin, il y en avait une qui était une mare ignoble. C'était la seule réserve d'eau. Et les déportés passaient sous les barbelés pour essayer de prendre l'eau dans cette mare. Et naturellement, comme il y avait des SS qui le gardaient, ils se faisaient chaque fois tuer, mais on ne tenait plus à la vie, on n'avait de toute façon plus du tout envie de vivre. On avait le sentiment par moment, par exemple, qu'on n'avait plus la capacité de réfléchir à quelque chose. Il n'y avait donc plus que des instincts. Je dirais que c'est peut-être une des choses la plus angoissante, c'est ce sentiment de se dire, est-ce que je suis encore un être humain? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers quelque chose qui est purement l'instinct de vie et l'envie de mourir d'ailleurs? Très grande angoisse par rapport à ça. Et la libération est arrivée dans ce contexte dont on ne pouvait même pas se réjouir parce qu'on ne savait pas du tout si on survivrait. Et d'ailleurs, beaucoup de déportés sont morts à Belsen après la libération.
Voici un bref résumé de son parcours. Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive non pratiquante. Sous l'occupation, elle fait transformer son nom d'origine Jacob grâce à de faux papiers, mais elle se fait malgré tout arrêter avec sa famille par la Gestapo en 1944. Elle est alors transférée dans différents camps, dont Auschwitz et Bergen-Belsen. Après la guerre, elle entame des études de droit et entre dans la magistrature. En 1974, elle entre dans le gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, en tant que ministre de la Santé jusqu'en 1979. C'est à elle que l'on doit la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dépénalisant l'avortement. Votée en 1974, elle entre en vigueur en 1975. Simone Veil fait face alors à de nombreuses menaces et intimidations, mais ce combat lui a apporté une grande popularité. Son parcours politique continue au Parlement européen, dont elle occupe le poste de présidente de 1979 à 1982. Elle sera par la suite ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville dans le gouvernement d'Édouard Balladur en 1993, puis membre du Conseil constitutionnel entre 1998 et 2007. En dehors de la vie politique, Simone Veil est maman de trois fils. Elle a été présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et en 2010, elle entre à la prestigieuse Académie française. Elle est décédée le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans. Elle entre au Panthéon avec son mari Antoine en juillet 2018. Dans un merveilleux malheur, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, explique par cet oxymore le paradoxe de la résilience. Il écrit « On est toujours émerveillé devant ces enfants qui ont su triompher d'épreuves immenses et se faire une vie d'homme malgré tout. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser notre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. C'est celui de résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. En comprenant cela, nous changerons notre regard sur le malheur et malgré la souffrance, nous chercherons la merveille. » Beaucoup d'enfants traumatisés n'arrivent pas à résilier. Ils deviendront plus tard des dépressifs chroniques, des délinquants, violents, avec des problèmes mentaux. Ceux qui arriveront à s'en sortir auront une force de vie en eux, comme un accélérateur de vie. Ils iront plus vite que les autres. Pour Boris Cyrulnik, la résilience est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme psychique. Pour créer les conditions de la résilience, il propose son éclairage dans le magazine Cerveau et Psycho. Tout d'abord, il existe deux types de traumatismes. Les traumatismes violents, comme un attentat, un accident, une maladie grave, provoquant une hypermémoire traumatique. Et les traumatismes chroniques, des insidieux, qui se mettent en place au cours de l'enfance et dont nous n'avons pas conscience. Dans les deux cas, les altérations cérébrales sont les mêmes. En neuroimagerie, on observe une sorte de sidération cérébrale. Le cortex préfrontal et le système limbique sont complètement éteints. Il en est de même pour les surrénales qui sécrètent le cortisol, hormone du stress. En clinique, les patients sont sidérés. La résilience est unique en fonction de chaque individu, car elle dépend de l'âge de la personne, de ses gènes, de l'intensité du trauma, de sa durée, de la réaction biologique de l'organisme, de l'entourage affectif et de l'environnement socioculturel. Rien ne peut prédire si un individu s'en sortira ou non. En étudiant les rescapés des attentats du Bataclan à Paris de novembre 2015, il a été constaté que si les gens sont laissés seuls, le pourcentage de résilience est faible. Et s'ils sont bien entourés, le pourcentage est élevé. Près de la moitié des personnes rescapées du Bataclan ont souffert de syndromes post-traumatiques. Plusieurs vivaient ce que l'on nomme des épisodes de reviviscence, avec des images ou des sons qui s'imposaient à eux et les replongeaient dans l'événement en provoquant chez eux la même détresse que lors de l'événement initial. Un an après les attentats, 50% des victimes étaient guéries et 90% après 2 ans. Pourquoi de tels résultats ? À Paris, l'aide médicale et l'intervention des pompiers, médecins, urgentistes ont été quasiment parfaites. L'aide psychologique a été très bien mise en place et suivie. En revanche, lors de l'attentat de Nice en juillet 2016, d'après les observations, il s'est avéré plus sanglant et effrayant qu'à Paris. Les médecins et le personnel soignant ne pouvaient pas secourir les victimes car ils étaient eux-mêmes couverts de sang et traumatisés. De plus, des conflits entre politiciens et habitants ont éclaté. Des Français de culture musulmane ont beaucoup souffert lors de l'attentat et ont été agressés violemment comme s'ils en étaient responsables. L'horreur de l'événement, Ces raisonnements absurdes et les conflits entre politiciens ont provoqué à Nice davantage de syndrome post-traumatique qu'à Paris, et le taux de résilience sera probablement beaucoup plus faible. L'environnement socioculturel joue un rôle majeur dans la résilience. Dans un premier temps, il faut distinguer les facteurs de protection acquis avant le traumatisme qui diffèrent selon les individus, comme les déterminants génétiques et l'attachement dit « sécure » qui donne une meilleure confiance en soi. L'attachement sécure est acquis grâce à l'affection et aux stimulations sensorielles de la part de l'entourage. Dans un second temps, il faut noter les facteurs de résilience existants après un traumatisme et qui diffèrent aussi selon les individus et les situations. Grâce à eux, il est possible de relancer ou remodeler le cerveau après le traumatisme. Il repose sur deux actes. Le premier est de sécuriser les victimes en leur apportant un soutien affectif préverbal, c'est-à-dire avant qu'elles arrivent à parler à nouveau, en leur apportant un café, les rassurer, les câliner, sans jamais les laisser seules. Il faut attendre qu'elles puissent à nouveau parler sans les forcer. Le second est donner un sens à leur récit du trauma en les écoutant. La parole permet de se libérer des images traumatiques qui tournent en boucle. Le récit fait aux proches n'est pas le seul facteur de résilience. Il y a également le récit collectif. Et là, les journalistes, romanciers, historiens jouent un rôle culturel important. Car si au moment où la victime déclenche un processus de résilience et redevient capable de parler et de raconter son histoire, la société dans laquelle elle vit est indifférente ou tourne sa parole en dérision, alors la résilience est impossible. Il y a une discordance entre le récit du blessé et celui qu'en fait son environnement. Prenons quelques tristes exemples. Pendant la Grande Guerre de 14-18, beaucoup de soldats blessés au front ont souffert de syndromes post-traumatiques et n'étaient plus capables de retourner au front. Alors, on les électrochoquait sur la cuisse pour les punir, car on les considérait comme des lâches. Après la guerre de Corée, on a vu un général qui giflait violemment les soldats qui rentraient. Beaucoup de ces hommes ne se sont jamais remis de leur agonie cérébrale, alors qu'ils étaient parfois bien entourés à la maison. De même, une femme violée dans un pays traditionnel, agressée physiquement et humiliée sexuellement, a une faible probabilité d'enclencher un processus de résilience, car sa famille la fait taire, et la société dans laquelle elle vit la chasse, alors que dans un autre contexte culturel, la même agression physique et la même humiliation sexuelle auraient des conséquences beaucoup moins fâcheuses. C'est pourquoi le syndrome post-traumatique et sa résilience dépendent aussi du contexte et de la culture. Nous avons tous en nous la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Quoi qu'il m'arrive, j'ai tout pour y faire face.